6 heures.
Bonjour.
Ça va?
Réparer son Mac est un vrai défi dans la région. Il n'existe qu'un réparateur spécialisé Apple dans les Hauts-de-France. Et c'est Olivier Berthe, gérant de clinique informatique. Nous l'avons rencontré.
Là, c'est un peu décollé. Et avec le port HDMI, mais j'ai testé, on peut mettre le port HDMI sans problème.
Okay.
C'est parce qu'en fait, d'origine, j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse au niveau du port. Donc, j'ai préféré le renforcer.
Okay.
Donc, ça crée une petite surépaisseur. Ouais. Et du coup, voilà.
Mais on voit bien qu'il consomme 1 ampère 64. Donc, il n'y a pas de souci, il charge.
C'était quoi le souci? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine?
Ça fait un court-circuit. Ouais. Et du coup, ça fait un retour sur la carte mère. Dû au port, du coup, qui a été complètement abîmé et avec le court-circuit et avec le liquide. Et du coup, ça a complètement endommagé l'intérieur. Et le souci dans ces cas-là, c'est qu'on croit qu'il n'y a que le port à remplacer. Malheureusement.
Là, il n'y avait pas des composants en plus des...
C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, après, ça malheureusement, il n'y a pas de fusible ou quoi que ce soit là-dessus. On aimerait bien. Mais c'est souvent effectivement des composants de puissance, des MOSFET ou des choses comme ça, et voilà, remplacer.
Donc là, vous l'avez ouvert, vous l'avez inspecté à l'œil nu, il y a des machines, qu'est-ce que vous utilisez?
J'ai un trinoculaire numérique, donc ça permet d'avoir un affichage sur un écran externe.
Ouais.
Et surtout d'avoir une visibilité correcte, parce que c'est tout petit, ça reste petit, puis il faut suivre ligne par ligne de courant. Et après, tester au multimètre, voir si des circuits sont bien alimentés, si le chemin se fait bien. Et c'est comme ça qu'après, du coup, on arrive à réparer quand dans les meilleures des conditions possibles. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'on n'a pas, sur PC, on n'a pas forcément tous les schémas. Moi, c'est vrai que je suis spécialisé à Apple, mais je fais aussi du PC, mais c'est vrai que c'est un peu moins évident des fois. Moi, c'est Olivier, Olivier Berthe, gérant de clinique informatique. Ça fait 18 ans que je suis spécialisé Apple, j'ai été formé par Apple France. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'évolution des produits Apple de plus en plus vers le tout soudé. Et j'empilais des machines en ne pouvant pas les réparer à l'époque parce que j'avais pas les connaissances. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un gâchis monumental. Il y a forcément une solution pour des fois des petites bricoles en électronique, on sait que ça peut repartir. Et c'est là que je me suis intéressé, j'ai essayé de me former tout seul parce qu'il n'y avait pas d'école à l'époque. J'étais pas très bon en électronique à la base, il a fait que je me forme en électronique spécifiquement sur Apple parce que c'est une conception de schéma bien particulière. C'est pas du tout conçu comme les PC. Et petit à petit, j'ai fait repartir des machines qui étaient là. Je me suis dit, ça m'a donné un peu de bon retour. Et puis finalement, j'ai pu sauver des choses complètement folles. J'ai une dame, une fois, elle m'a amené un ordi, elle était dans son bain, elle suivait une série. L'ordi, il a glissé, il est tombé dans la baignoire complet, immergé totalement, je l'ai sauvé. Il y a des trucs comme ça, c'est fou.
Il faut pas le faire, faut regarder des séries.
Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. C'est comme le fameux, la fameuse histoire du riz, là, qui est totalement fausse. On dit de mettre le téléphone dans le riz quand il est tombé dans l'eau et tout ça, mais c'est totalement faux, ça fait rien du tout, il n'y a pas de pouvoir déshumidifiant, déshumidificateur. Il vaut mieux prendre les dessiccateurs, là, ce qui est dans les chaussures, les boîtes à chaussures et tout ça, mettre tout ça dans un tupperware hermétique, et des fois, effectivement, il y a de bien meilleurs résultats, encore que bon. Le meilleur réflexe, c'est de l'amener directement chez un réparateur qui, lui, va pouvoir désassembler tout, et surtout déconnecter les alimentations, parce que ce qui fait mal dans l'oxydation, c'est l'alimentation. Donc il ne faut surtout pas rebrancher un appareil qui a pris l'eau, pour essayer de voir s'il fonctionne, et vite débrancher la batterie. Donc c'est un peu ça le secret. Et plus on intervient vite, plus on a de bonnes chances de récupérer les choses, au moins les données. Voilà.
Alors c'est vrai que pour la petite histoire, moi j'ai mon ordinateur où il y a l'alimentation qui est dans le café, je pense. Du coup j'ai cherché des réparateurs. Je suis passé par des boîtes plutôt classiques, on va dire. Des gens qui ont pignon sur rue, qui m'ont dit que le port USB-C était mort et qu'il n'y avait pas grand chose à faire, qui me proposaient de racheter un ordinateur. On vous a trouvé, vous êtes nombreux dans la région des Hauts-de-France pour faire ce genre de réparation, de la micro-soudure,
Non, on n'est vraiment pas nombreux. Alors après, spécialisé Apple, c'est encore pire. On est 5 en France, donc j'ai même là récemment reçu un téléphone qui venait de La Réunion. Donc on m'envoie tout ça par colis. Mais non, dans les Hauts-de-France, moi j'ai des clients. J'ai un client qui a fait le déplacement de Lille. C'était un studio d'enregistrement, donc il avait besoin de ressouder un contrôleur sur un disque dur. Et pareil, il lui demandait 2000 euros, un truc complètement hallucinant. Mais il était prêt à le faire parce qu'il avait toutes ses données clients dedans. Je lui ai sauvé la mise. Il était heureux comme tout parce que ça lui a dédommagé le trajet en plus, largement. Et non, on n'est pas nombreux. Et puis en plus de ça, moi de mon côté, je fais pas spécialement de publicité parce que je suis tout seul. Donc les temps de diagnostic sont très longs. Donc c'est chronophage comme activité. Donc je fais pas spécialement plus de pub que ça en plus. Donc non, on n'est pas nombreux. Je suis même tout seul. C'est, en fait, je répare toutes les erreurs en plus des confrères qui s'installent, qui n'ont pas des fois forcément toutes les connaissances ou autres. Ils abîment des composants ou des choses. Et quand les clients sont pas très contents, et ben, ils sont obligés de trouver une solution. Et dans ces cas-là, ils me trouvent. Et c'est vrai que je travaille pour quasiment tout le monde dans la région, même en sous-traitance.
Là, le tarif de base là, pour l'auscultation de l'ordinateur, c'était 50 euros.
Ouais, c'est
le devis. C'est combien de temps en termes de temps de travail?
C'est ça. Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre des cas de figure. Alors, c'est vrai que moi, je me suis calé sur ça. Au départ, je faisais le diagnostic gratuit. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. On m'a amené des tonnes de matériel. Et comme ça, effectivement, des fois, c'est très, très rapide. Des fois, c'est très long. Donc, je me suis dit, en me calant à 50 euros, ça me fait une moyenne. Et finalement, derrière, en plus, c'est un tarif qui est déductible de la réparation. Donc, moi, ça m'évite de faire des diagnostics pour rien. Juste, voilà. Et puis, derrière, le client, ça lui permet effectivement d'avoir un point final pour confirmer ou pas la non-réparabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans un Apple Store, pour pas les citer, la plupart du temps, c'est des pousse-cartons maintenant. Ils veulent vendre du matériel. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit bien qu'ils font des diagnostics hein, quand la machine a pris du liquide. Mais on le voit très bien au microscope, en regardant les têtes de vis, que les machines n'ont même pas été ouvertes. Donc, ils chargent un maximum le devis avec une carte mère, un trackpad, un machin, un ventilo, une batterie et la totale. On arrive à un devis à 1000 euros. Et puis, en faisant la balance avec l'ancienneté, la vétusté de la machine et tout ça, ils nous disent qu'ils ont vite fait de nous convaincre à dire, bah non, vous changez de machine, ça vaut plus le coup, quoi. Donc c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'enseignes qui n'ont pas les compétences ou qui veulent pas les avoir, parce que moi, les Apple Store, je les ai démarchés. Je voulais travailler ensemble en bonne intelligence, parce que le constat, c'est quoi? C'est que si le client, il n'a pas forcément les moyens de racheter une machine, ils vont perdre un client. Donc, c'est complètement idiot. Au lieu de rester dans la marque, d'ici là, ils vont partir même sur un PC ou autre, et c'est quand même dommage. Donc, mais non, ils n'ont jamais voulu. Alors, c'est vrai que j'ai 2-3 techniciens sur place, des fois, qui m'envoient des clients quand même, parce qu'ils ont vu l'intérêt de la chose, et que c'est quand même bête de perdre des clients, et c'est quand même bête de laisser un client comme ça, alors que des fois, il y a possibilité de faire des réparations. Non, je sauve pas tout, mais maximum.
Olivier nous en dit plus sur les pannes les plus fréquentes qu'il doit réparer.
Les iPhones des dernières générations, elles sont ce qu'on appelle en carte mère sandwich. Donc c'est ultra compliqué et je m'amuse pas de proposer des réparations à purement parler sur un iPhone. L'iPhone, le cas de figure de l'iPhone, ça va être une personne qui a un téléphone qui du jour au lendemain ne s'allume plus et il veut absolument récupérer les données. Là, je vais pouvoir lui proposer une prestation de récupération de données. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est... Il faut que j'ai les fonctions primaires, parce qu'un smartphone aujourd'hui, pour pouvoir récupérer les données, c'est qu'il faut le connecter sur un ordinateur, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il démarre, qu'on ait de l'affichage et du tactile, pour pouvoir taper son code de déverrouillage, parce que sans ça, on n'a pas accès sur l'ordinateur. Donc c'est la prestation que je propose, et dans ces cas-là, en général, ça se situe aux alentours de 150 euros. Donc pareil, même principe, diagnostic initial de 40 ou 50 euros suivant la gamme et le modèle d'iPhone. Et après, si réussite et succès, 150 euros donc au total. Mais ça, c'est vraiment pour la récupération de données, parce que derrière, je peux pas fiabiliser un appareil comme ça, c'est trop complexe les iPhones. Et je le faisais au départ et finalement, c'est un peu compliqué. Bien sûr, je le fais sur Mac à 100%. On va dire que sur un Mac... en moyenne, ça tourne au maximum. Ce que je m'autorise de proposer comme réparation, c'est le tiers du prix de la machine. Ça donne une bonne idée à peu près. Après, je considère que c'est économiquement inintéressant.
Il y a une prime de réparabilité cette année, ou l'année dernière, qui a été mise en place par le gouvernement. Vous y participez? Il y a cette aide de 50 euros quand on vient vous voir?
Non, je fais pas. Je fais pas ça parce que c'est trop d'administratif. Je me suis renseigné, c'est beaucoup trop d'administratif, avec des délais de règlement qui sont complètement hallucinants. Ça aide pas du tout parce que pour le commerçant final, en fin de compte, on s'aperçoit de quoi. Il y a une tricherie, même des confrères et autres, je le vois bien parce qu'on a des groupes et tout ça, on voit comment fonctionne chacun. Ce qui se passe, c'est qu'ils augmentent d'autant les réparations. Donc je préfère rester sur mes tarifs et puis proposer ma prestation de base normale et puis voilà. Après, il y a un autre point fort aussi que j'ai en dehors de la micro-soudure, c'est vrai que je propose aussi, Apple rend vite les Mac obsolètes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une solution pour pouvoir installer des systèmes qui ne sont pas compatibles éventuellement sur les machines pour les faire durer. Par exemple, celui-là, l'iMac 27, là, c'est un 2010. Il est censé s'arrêter à Sierra. Donc 10.13, aujourd'hui, c'est complètement dans les choux. On peut même plus aller sur Internet de manière sécurisée, j'entends. Donc là, j'ai la possibilité, par exemple, d'installer Monterey ou un système récent dessus pour que la machine dure encore des années. Parce que on va changer le matériel, non pas parce qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui, mais parce que le système n'est plus opérant et en fonction de tout ce qui interagit autour. Quoi.
Donc là, ce n'est pas du hardware, ce n'est pas du matériel physique, non. C'est uniquement du software, c'est le système, quoi, l'OS.
C'est ça, avec quand même une partie des fois importante parce que il y a quand même des fois des machines de cette génération qui sont encore sur des disques durs mécaniques. Donc quand même, dans la prestation générale, j'inclus... il faut qu'il y ait, de toute façon, quoi qu'il arrive, un SSD. Parce qu'aujourd'hui, le disque dur électronique, c'est la base au niveau de la vitesse et tout, on est obligé. Donc il y a un changement de disque, plus après, derrière, la prestation, effectivement, de réinstallation avec un système récent, avec la réintégration des données, des réglages, voilà. Et comme ça permet de faire durer, et j'en ai fait durer un paquet comme ça, et c'est génial, parce qu'au lieu de racheter une machine, encore une fois, à 1500 ou même plus, sur un iMac 24 maintenant, on est ouais, sur des gros disques durs 1 Tera, on est ouais, facile à 1500, 1008 même. Là, on arrive à sortir avec une prestation aux alentours de 300-400 euros maximum, quoi, suivant la taille du disque dur.
Et puis un coût écologique.
C'est ça, ouais. c'est ça. Donc non, c'est intéressant et je suis content d'avoir trouvé cette solution parce que c'est vrai que c'est quand même dommage.
Vous faites pas du reconditionné, vous allez pas voir sur le bon coin tous les Macs qui sont en panne dans le coin pour dire allez, je te le reprends à 150 euros et puis une petite culbute derrière.
Ça m'est arrivé, mais pas dans ce sens-là. Ça m'est arrivé pour des clients qui, par exemple, des personnes âgées qui avaient un petit budget ou des choses comme ça. Effectivement, j'arrive du coup à proposer, au lieu de leur dire d'acheter une machine neuve, au lieu de leur dire aussi de se débrouiller par elles-mêmes, d'aller acheter elles-mêmes et trouver elles-mêmes une machine sur le bon coin d'occasion ou autre parce qu'elles y connaissent rien, je préfère du coup, elles me disent leur budget, leur enveloppe globale, et à ce moment-là, j'essaie de trouver effectivement des machines et qui permettent, par rapport au prix d'achat et autres, et plus ma prestation derrière, de leur proposer une machine à un tarif intéressant. Dans ce contexte-là, ouais, je l'ai fait, ouais. Ça m'est arrivé de le faire quelques fois.
Clinique Informatique est une entreprise locale basée à Andainville, dans l'Oise. Mac en panne, un seul réparateur dans la région, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 en modulation de fréquence.
Morchouane, petit marchand de pierre de la rue Quincampoix. Il avait un ami du nom de Picolet, mais ça c'est mal fini, Morchouane a trépassé. Vrai Macron Picolet est un sale obsédé qui recueille dans son bouche les jeunes filles dépravées, qui frappe très fort avec fouet et martinet pour les faire travailler la nuit sans les payer. Et Morchouane, je veux savoir ce qui s'est passé. Morchouane, c'est un salaud, ton Picolet. Picolet invita Morchouane à s'enivrer. Morchouane voyait le trafic et l'argent affluer. Les jeunes et vieux vicelards qui payaient la macraine. Morchouane voyait déjà son bar en vieux bordel. Morchouane attire chez lui une créature de rêve. Pour développer le business, il lui maquille les lèvres. Il habille en sartène et d'un string en dentelle. Et offre à ses clients une bonne bouteille blanc. Morchouane, c'est un salaud, ton Picolet. Morchouane, je veux savoir ce qui s'est passé. Morchouane, si j'étais à ta place, moi je vire cette gonzesse tout de suite. J'irai pas développer le business dans ces nouveaux métiers, c'est un plan foireux. Tu vas te faire serrer par la mondaine, Morchouane. Ou pire, te faire rattraper par le milieu. Allez, Morchouane, reprends ton zinc en main, serre-moi un coup à boire.
a frappé Morchouane, qui voulait négocier pour la question des filles picolées et butées. C'était la triste histoire de Philippe Morchouane, maintenant son corps pourri sur le trottoir à poil. Depuis moi j'ai compris la morale de l'histoire, t'occupes pas du tabac quand tu fournis à boire. Morchouane, c'est un salaud ton picolet. Morchouane, Morchouane, je veux savoir ce qui s'est passé. Morchouane, c'est un salaud ton picolet. Morchouane, Morchouane, je veux savoir ce qui s'est passé. Morchouane, c'est un salaud ton picolet. Morchouane, Morchouane, je veux savoir ce qui s'est passé.
Yeah man, about a little shot shot, about that little shot shot that we can't really talk about. You know, we get that big old parental sticker shit. I know what you're saying.
Check it out, round one. My lady, I used to see her like daily. Now she's on a mission, now she's like shady, huh? Now my position is fishing in the sea, in the ocean. Cause she was fake with her emotions. Depressions came in sessions, I learned my lesson. Thinking of her, that's distress and aggression. Memorabilia caused insomnia, sleepless. So I hit the sensimilia, but yo, it didn't help. Felt what I felt. Writing poetry was the way that I dealt with the mountains. She was my earth, she was my queen. A dream, so it seems. Now I know your routine. Your lies is deep, your whole cuisine. Man, she couldn't handle, I was stepping to the scene. Nah, no, no more at all. Nah, no, no more at all. Round two. My lady, I used to see her like daily. But lately I've been on a mission, acting sort of shady. Now my position is fishing in the sea. Crazy confused with my emotions. The questions came in session. She got me stressing. Thinking of her, is it love or obsession? Mad cause I don't keep memorabilia. Pissed off cause I love hitting sensimilia. But yo, nothing helps when that feeling starts to melt. Yo, here's the deal, I don't like that deal. I'm getting down. Now she's melting. She was my earth, she was my queen. What started as a scheme is now a sorry routine.
We ain't no dream team.
We just two singles on the scene. You go for yours, I go for mine.
I don't.
Dans le cadre de son festival de l'écoute et de la radio, le collectif Écoute que coûte invite du lundi 21 au vendredi 25 juillet prochain à Arras l'association Urbanisation. Urbanisation, c'est une association belge qui développe des outils sonores participatifs, notamment des balades sonores. On en discute à distance avec l'une des deux co-coordinatrices.
Ben moi, je m'appelle Céline Weintraub. Je suis une des deux fondatrices de l'ASBL Urbanisation. Oui, en Belgique, on dit ASBL, donc c'est Association sans but lucratif, ASSO, pour le français, je pense. Voilà, avec Émilie Bergilet, qui est ma collègue amie, avec qui on a fondé Urbanisation en 2007 déjà.
Alors justement, comment ça a commencé ce projet à la base ?
Ah voilà, alors la base du projet Urbanisation, c'est qu'on était toutes les deux des étudiantes en animation socioculturelle et éducation permanente, et on devait faire un mémoire de fin d'études. Et on avait toutes les deux choisi le son, mais on n'était pas que deux, au début on était sept. Et Émilie, elle avait créé une balade sonore dans un quartier de Bruxelles, à Flagey plus précisément, et à l'époque... Le quartier était vraiment en travaux et en transition. C'était un quartier assez populaire qui devenait un peu plus chic. Et l'idée de créer cette balade sonore, c'était de préserver la mémoire d'un quartier qui est en train de se transformer et de voir l'impact que ça peut avoir aussi de mettre en évidence certains lieux qui sont importants pour les gens qui y vivent. Et après ce mémoire, en fait, on a décidé de se réunir en collectif pour continuer le travail de balade sonore dans ce quartier-là et puis dans d'autres quartiers.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste une balade sonore exactement ?
Oui. En fait, il y a deux étapes à la balade sonore. Il y a d'abord l'étape de réalisation et de création et puis la diffusion de la balade. Et donc, nous, quand on réalise une balade sonore, on va toujours travailler avec un public, donc avec des personnes, avec des habitants qui partagent une réalité commune. Ces dernières années, on a beaucoup travaillé avec des publics d'apprenants. En français, langue étrangère, donc des personnes issues d'immigration qui arrivent en Belgique depuis pas très longtemps. Et puis, pendant la réalisation, on va ensemble réfléchir à un quartier, quels sont les lieux qu'on aime bien, les lieux qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, puis on va se balader ensemble et on va découvrir des lieux, on va enregistrer tout ça. Et puis, après, il y a le travail de réalisation sonore. Et puis on présente au public. Et donc, qu'est-ce que c'est une balade sonore pour le public ? Eh bien, on invite le public à se rendre sur le point de départ d'une balade sonore. Il reçoit des casques pour écouter des témoignages et un plan. Et puis, on va guider le public d'un endroit à l'autre. On va se balader dans un quartier à travers le vécu, les yeux, les oreilles d'un groupe de personnes qui fréquentent ce quartier. Et donc, on va se balader, on va entendre dans le casque leurs histoires de vie et puis les endroits aussi qu'ils et elles ont découvert dans ce quartier. Pourquoi c'est important pour eux, pourquoi ils n'aiment pas cet endroit-là précisément. Et donc, on va vraiment faire, souvent c'est 5-6 arrêts d'écoute, 6 pistes sonores. Et à la fin, on se réunit entre le public, les personnes qui ont témoigné dans la balade sonore et nous d'Urbanisation, et on va avoir vraiment un échange, un retour après à propos de la balade sonore, de la thématique qui est abordée, de ce qui a touché les gens, interpellé les personnes. Voilà.
La ville de Namur, c'est charmant, c'est marchand.
Un lieu de vagabondage, d'exploration, d'aventure.
La ville de Namur, obscure par endroits.
Les cours d'eau, la Sambre, la Meuse, au moins ça bouge, ça vit.
La ville de Namur, c'est celle où je suis née et c'est celle où je vis.
La ville de Namur, c'est celle qui m'a accueillie.
Je suis vieille.
La ville, c'est circuler, il n'y a rien à voir.
Trop de bagnoles.
Les rencontres.
L'euphorie.
De la poésie.
Sortir de son cocon.
La rue, c'est l'aventure.
Des pavés.
Des trottoirs trop petits.
La citadelle.
La rue, ce n'est pas fait pour les mauvaises herbes.
Qu'est-ce que ce dispositif technique aussi permet, à la fois du point de vue des auditeurs, auditrices, hein, des gens qui participent à la balade, et aussi des gens qui ont fabriqué la balade sonore?
Pour les personnes qui témoignent dans la balade sonore, Je dirais que c'est différent selon les publics, mais quand même, peut-être qu'il y a, ce qu'il y a de commun, c'est une espèce de reconnaissance, d'être entendu, d'être écouté et puis d'être entendu, que d'autres personnes se rendent compte de leur vie, de leur vécu, de la manière dont ils, ils occupent l'espace public, de la manière dont ils fréquentent certains lieux ou ont besoin de certains lieux que nous, on n'a peut-être pas besoin. Il y a ça, il y a la rencontre entre ces deux publics-là qui est quand même super importante, qu'elle ait lieu ou pas physiquement, parce que je dis qu'il y a une rencontre entre les personnes qui témoignent et le public, mais parfois on rediffuse les balades sonores, les vieilles balades sonores qu'on a réalisées il y a 5 ans par exemple, et les personnes qui ont témoigné ne reviennent plus. Mais pour nous, la rencontre, elle se fait quand même à travers le son. En fait, le public... qui vient découvrir une balade sonore, ben, il rencontre aussi certaines, ces personnes-là à travers leur voix, à travers le choix des lieux de la balade. Et donc, je dirais que pour le public, ça permet à la fois de découvrir un quartier ou de redécouvrir sa ville différemment, parce qu'il y a aussi toute la trajectoire qui est importante, donc quelle rue on utilise pour aller d'un endroit à l'autre et... Toute cette trajectoire, elle est choisie par les personnes qui réalisent la balade avec nous. Et donc, parfois, on redécouvre des belles petites rues ou on découvre des nouveaux endroits qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est chouette. Ou alors, si on est vraiment touriste, on découvre une ville à travers les gens qui y vivent. Et donc, c'est vraiment le côté humain, je dirais. De se rencontrer, d'entendre, de découvrir. Et puis, au final... Allez, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est quand même l'idée de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'autre parce qu'on entend ce qu'il a vécu et puis d'avoir un meilleur vivre ensemble, entre guillemets, dans une ville où il y a beaucoup de personnes qui sont différentes, qui ont des parcours de vie différents, des origines, des âges, des couleurs de peau, voilà, des genres... C'est un peu ça l'objectif des balades sonores, quoi. Avoir plus une meilleure cohésion sociale, plus de rencontres, plus de tolérance, quoi, entre les gens.
Ruelle
sauvage.
Sauvage.
Vous écoutez.
Passage ouvert, ruelle sauvage. Balade sonore.
J'ai pas envie d'avoir toujours peur dans cette société. Moi, j'ai envie d'avoir de la joie, d'être heureuse.
Quand est-ce que la ville va redevenir un lieu de vie avec des quartiers, avec des personnes qui se croisent et ça se passe à Saint-Servais, ça se passe à Baumel, ça se passe parfois à Jambes, etc. Et plus dans le centre, en fait, de Namur. Dommage.
On est toujours à distance avec Céline Weintraub d'Urbanisation. Cette association belge participera au Festival de l'écoute et de la radio, organisé par le collectif Écoute que coûte. Alors ça sera pour Urbanisation du 21 au 25 juillet prochain à Arras, avec le mardi 22 juillet de 18h à 20h une séance d'écoute collective d'extraits de balades sonores. Le mercredi 23 juillet en matinée, un atelier d'initiation à la balade sonore. Et puis, donc, le mercredi 23 juillet à 18h, une balade sonore dans les rues d'Arras autour de la question des femmes dans l'espace public.
La balade sonore s'appelle Passage ouvert, ruelle sauvage. C'est une balade sonore qu'on a réalisée en 2024 avec un groupe de femmes dans une ville située en Wallonie qui s'appelle Namur. Et donc, cette balade sonore-là, elle parle des femmes dans l'espace public, dans les rues de Namur. Ça traverse quand même beaucoup de sujets différents parce que, évidemment, c'est quoi être une femme dans l'espace public? Comment est-ce qu'on perçoit l'espace public quand on est une femme? Mais évidemment, les 6 femmes qui ont témoigné dans cette balade sonore-là, elles sont toutes différentes et elles ont toutes aussi des particularités qui font qu'elles vont témoigner aussi de ça, de leur usage de la ville. Donc, par exemple... ce qui nous relie, il y a des thématiques qui nous relient, qui sont un peu connues, mais en fait, par exemple, le harcèlement de rue. On s'est rendu compte que toutes les femmes autour de la table, elles s'étaient fait déjà agressés, peu importe leur âge physique, apparence, voilà. On nous a beaucoup ramenés à notre corps dans la ville. Et puis, il y a vraiment l'aspect comment chacune d'entre elles perçoit la ville. Qu'est-ce qui est important pour elle? C'est quoi ses besoins? Il y en a qui parlent vraiment de l'importance d'avoir des espaces verts. Pourquoi c'est important d'avoir des espaces verts dans une ville? Puis on a un peu rêvé la ville aussi. Serait quoi une ville plus inclusive? Qu'est-ce qui ferait qu'on se sente plus à l'aise dans une ville? Il y a le côté mort un peu parfois des villes où il y a beaucoup de commerce et en fait, une fois que le soir arrive, ben, il n'y a plus rien, donc ça amène de l'insécurité. Puis dans le groupe, il y a une personne porteuse de handicap. Et donc, ben, là, c'est quand même carrément une autre manière aussi de vivre la ville, d'expérimenter la ville quand on est en chaise roulante. Et ça, on s'en est rendu compte aussi voilà, en réalisant cette balade sonore-là. Et ce qu'elle a de spécifique aussi, cette balade, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Marine Bernard, qui est aussi de Namur, et qui a réinterprété chaque piste sonore par une élue. Et les illustrations se trouvent dans les rues de Namur, imprimées sur du dur, quoi, on va dire, pour qu'elles puissent rester vraiment de manière pérenne. Et c'est important pour nous de visibiliser ces vécus dans la ville, et puis de rendre accessible et visible la balade sonore et les témoignages aux passants, en fait. Rendre visible la balade sonore dans les rues de Namur. Voilà, et en fait, cette balade sonore-là, l'année passée, on l'a adaptée déjà à une ville de France, à Montpellier, parce qu'avec des partenaires français, on a aussi organisé un festival qui s'appelait Ça se raconte. C'était le premier festival qu'on a imaginé ensemble autour des histoires de vie. Et on avait réadapté cette balade sonore-là dans les villes, dans les rues de Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on se rend compte que peu importe la ville, les vécus des femmes faisaient vachement écho, en tout cas là-bas à Montpellier, on verra à Arras. Hein. Mais voilà, il y a des réalités qui ne changent pas, peu importe la ville dans laquelle on se trouve.
Si, en tant que femme, je vous dis « à nous la rue », vous me répondez quoi? Pouvoir espérer un jour pouvoir s'y promener en toute sécurité sans devoir regarder derrière soi?
Aujourd'hui, la rue n'est plus aux femmes, ça c'est clair et net.
Bah, la rue à tout le monde, quoi. Et même en tant qu'homme, la rue devrait nous appartenir, quoi. Genre, c'est à nous. On devrait être protégés dedans.
Je crois que c'est pas la rue le problème. Le problème, c'est l'éducation des gens.
La rue est à tout le monde, y compris aux femmes. Et on peut se sentir puissante et à l'aise au milieu de tous les humains de la rue.
Peut-être qu'il devrait y avoir plus de femmes dehors et moins d'hommes, je sais pas. C'est vrai qu'on est plus à la maison, que les hommes ils sont plus dehors.
On écoutait un entretien avec Céline Weintraub d'Urbanisation, entretien ponctué d'extraits de différentes balades sonores produites par cet asso. Retrouvez-les à Arras la semaine du lundi 21 au vendredi 25 juillet dans le cadre de la semaine Chemin de Traverse du Festival de l'écoute et de la radio. Plus d'infos et le programme complet du festival sur le site de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, franf.fr. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Sa manière de s'amuser, sa manière de se moquer.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
ce qu'il va lui dire.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
qu'il va lui mentir. Elle ne supporte plus, lui ses grimaces. Elle ne supporte plus quand il joue avec elle. Elle ne supporte plus quand il se met à genoux. Quand il lui dit tout à coup, tu m'aimes. Elle ne supporte plus ses faux airs de poseur. Quand il lui dit qu'elle ne peut pas comprendre. Quand monsieur explique à madame qu'elle a besoin de lui, que sans lui c'est plus pareil.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
ce qu'il va lui dire.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
qu'il va lui mentir.
Du 5 juillet au 31 août prochain, Parc en Fête revient au musée du Louvre-Lens et le programme est tellement dense qu'il est impossible de tout vous détailler dans ce sujet. Avec beaucoup d'activités gratuites en extérieur dans le parc du musée et de nombreux temps forts, c'est la possibilité également pour celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances de passer un bel été. Ludovic Demathieu, chargé de projet médiation au Louvre-Lens.
On travaille pour l'été, pour une saison estivale festive depuis 8 ans, pour mettre en place une programmation à destination des habitants, des voisins, de tout le public qui souhaite découvrir le musée un peu différemment. Donc voilà, c'est une saison très festive avec plein de temps forts pour découvrir un parc de 20 hectares qui est assez incroyable, avec des environnements différents, et puis faire le lien avec le musée qui se trouve en plein milieu de ce parc et profiter d'une programmation très diversifiée pour voilà, proposer d'autres choses que ce qu'on a dans l'année au musée.
Le parc en fait est marqué cette année par le passage du Tour de France et vous avez mis en place un week-end festif à cette occasion, donc les 5 et 6 juillet prochains.
Ouais, on a souhaité faire un écho à ce grand événement qu'on a la chance de voir passer juste devant le musée. Donc on travaille nous depuis plusieurs années autour de la thématique du vélo, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on incite aux mobilités douces pour venir aussi au musée, on a des engagements écologiques. Et du coup on a voulu proposer des animations en tout cas qui fassent le lien avec le musée, donc des animations artistiques qui permettent de découvrir le vélo différemment, sous la forme de jeux, sous la forme d'ateliers. Par exemple, on va faire un atelier pour décorer son vélo en lien avec les tableaux d'Archimboldo. Donc c'est vraiment cette idée de faire le lien avec des œuvres d'art du passé et comment on peut leur donner vie dans un concours amusant, festif, accessible à tous, où on va pouvoir faire une grande parade où chacun viendra avec les décorations qu'il pourra faire et puis surtout le décorer sur le site du musée avec des associations, avec des ateliers de médiation. Et puis après, plein d'animations festives avec des vélos rigolos, avec du monocycle, avec des animations de cirque aussi. Et puis vraiment, ce volet aussi qu'on souhaite développer, c'est réparer son vélo, entretenir son vélo, le faire soi-même pour l'avoir après prêt pour tout l'été. Venir découvrir le parc en vélo, parce qu'on peut se balader dans le parc, il y a 20 hectares et c'est très agréable de se balader en vélo, et puis surtout d'aller sur tous les sites autour du musée aussi, hein, qui sont incroyables et qui permettent de relier les endroits importants du territoire.
Alors bien sûr, qui dit musée dit œuvre, on va pouvoir admirer notamment deux œuvres participatives, hein, mais aussi des œuvres en lien avec par exemple l'exposition S'habiller en artiste et la Galerie du Temps.
Ouais, on a souhaité cette année encore proposer au public de participer à notre saison parc en fête. On a des œuvres de grands artistes reconnus qui sont dans le parc, notamment on a une œuvre de Nikita Saint-Phal depuis l'année dernière, mais on souhaitait aussi travailler avec des artistes vivants qui travailleraient avec du public, du territoire, pour les associer dès le mois de juin à la saison parc en fête. Ça leur permet de travailler sur une installation qui sera visible de tous les publics pendant l'été, et puis de travailler aussi avec une artiste, c'est échanger, c'est collaborer, c'est travailler avec elle, c'est réfléchir ensemble à la structure, à l'installation. Et puis surtout, c'est mélanger les publics qui ne se côtoient pas forcément. Et donc, pendant nos ateliers participatifs du mois de juin, on associe aussi bien des élèves, des lycéens qui viennent là pendant le mois de juin dans le cadre du stage de seconde, que des associations autour de la parentalité, des associations qui travaillent avec des adolescents, avec des publics très variés, multigénérationnels, qui vont collaborer pour une même chose, pour une même installation, et puis vraiment avoir cette fierté quand on va inaugurer les œuvres, de se dire « moi j'ai participé à l'œuvre qui est exposée au parc du Louvre-Lens ». Et ça donnera aussi envie, en tout cas on l'espère, de revenir pendant l'été et de participer à toutes les activités gratuites qu'on aura.
Et justement, j'ai pu rencontrer une de ces artistes qui est en train de travailler sur un projet collaboratif. Il s'agit d'Anaïs Beaulieu, artiste et autrice spécialisée dans la broderie contemporaine et formée à l'École nationale supérieure d'art de Limoges. En lien avec l'exposition S'habiller en artiste, elle travaille actuellement avec des jeunes issus de différents établissements sur 10 panneaux brodés qui seront installés autour du musée.
Je me suis inspirée d'une des stèles qui est du secteur des arts de l'islam qui est en haut. J'ai adapté en fait un motif qui est un motif qu'on retrouve aussi en broderie dans les textiles de la section des arts de l'islam. Donc en fait le projet là il prend sens aussi parce qu'il y a des étudiants à qui j'ai montré la technique, et chacun est responsable d'une grille et ils reçoivent les groupes et ils leur montrent, donc il y a une transmission. Alors c'est vrai que moi je suis artiste plasticienne et que mon moyen de m'exprimer c'est la broderie sous toutes ses formes. Je brode la plupart du temps sur des matériaux peu communs en broderie traditionnelle, des sacs plastiques, du carton, des filets de pommes de terre, des déchets en fait qu'on voit plus en broderie. Et une partie dans mon travail donc c'est vraiment axé plus sur ces projets qui sont des projets participatifs, et je dis souvent que je tisse du lien au sens propre comme figuré. Le fil là il prend une dimension symbolique
pour relier ensemble, et enfin pour relier les gens ensemble et faire ensemble.
Du 23 au 27 juillet, un autre temps fort de Parc en Fête s'articulera autour du thème « Bien manger, la nature dans l'assiette », les explications de Ludovic de Mathieu.
Ça fait partie des engagements aussi du musée. On souhaite aussi sensibiliser, donc, comme je disais, à la mobilité douce, à l'alimentation. Donc, on travaille beaucoup avec des partenaires du territoire. Et notamment, on a souhaité s'associer avec les Anges Gardins et l'UFC Que Choisir pour leur donner carte blanche, pour créer des événements qui permettent de travailler autour de l'alimentation et du bien manger, tout en faisant le lien avec les œuvres du musée. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de tableaux qui représentent des scènes de repas. On a des tableaux du XVIIIe siècle. On a surtout les tableaux d'Archimboldo autour des fruits et légumes. Et on les utilise déjà toute l'année pour parler avec les scolaires de la saisonnalité, des fruits, des légumes, de ce qu'on mange, d'où ça vient aussi. Et puis des échanges entre les pays, comment on a découvert, comment est arrivé le citron, etc. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un focus autour de l'alimentation, mais sous la forme de jeux, sous une forme ludique et artistique. Donc il y aura plein d'activités qui seront proposées, ateliers cuisine, ateliers découverte, initiation, dégustation, et puis ateliers de pratique artistique autour de cette thématique-là pendant toute la semaine.
Également, fin juillet, si je ne dis pas de bêtises, on va aussi bien sûr pouvoir redécouvrir le parc du musée, sa nature florissante, avec également un spectacle de prévu autour du sol, de ce qui se passe dans le sol.
Ouais, on a souhaité aussi pendant l'été proposer des spectacles avant une programmation art vivant. Nous, on a la chance au Louvre-Lens d'avoir une scène, donc on a des spectacles toute l'année en lien avec les expositions. Et pendant l'été, souvent, on fait une petite pause. Et là, on a souhaité prolonger en fait, cette saison de spectacles dans le parc avec de l'art de rue, avec des circassiens et puis avec des compagnies du territoire. Et notamment, on proposera un spectacle avec la compagnie Metal UHAUT, qui est bien connue dans la métropole, qui propose des spectacles qui permettent justement, là, dans ce cadre-là, qui s'appelle La Faille, de prêter attention à des choses qu'on ne regarde pas forcément, de voir le sol sur lequel on marche, de regarder les aspérités du sol, de voir un peu ces failles qu'on a dans le sol, qui sont après habitées, peuplées par des mauvaises herbes, par des insectes. Et donc il y aura un spectacle qui permettra justement d'y prêter attention et de créer une sorte d'installation un peu participative, collaborative avec le public.
Autre temps fort de parc, en fait, c'est la nuit des étoiles, là aussi avec beaucoup de choses, de l'astronomie évidemment, du cinéma en plein air et une nuit sous une tente.
Oui, le 9 août, on a souhaité proposer un nouveau temps fort autour des étoiles. Ce sera la deuxième année, puisqu'on avait testé ce format l'année dernière. Ça avait très bien marché. On avait justement expérimenté quelque chose qui n'avait jamais été fait au musée, c'est-à-dire de dormir sous la tente. On avait déjà eu des séances de cinéma de plein air qui étaient proposées dans le cadre de Parc en Fête. Et là, on a souhaité coupler une programmation assez exceptionnelle avec à la fois de l'observation des étoiles, des planètes, avec un club d'astronomie de Lens qui sera là toute la soirée jusqu'à même 4h du matin pour observer les étoiles, les planètes et les étoiles filantes aussi. On en a eu beaucoup l'année dernière. Et puis en même temps, des ateliers du cinéma de plein air, ouverts et accessibles à tous gratuitement. Des animations aussi qui seront proposées, des petites surprises dans la soirée, notamment des balades à la lampe torche et des ateliers à la lampe torche. Et puis vraiment, je pense que ce qui a attiré beaucoup de personnes l'année dernière, et on l'avait fait pour un petit public, une quarantaine de personnes, c'est que cette année, on va reproposer donc la nuit sous la tente pour 90 personnes. On n'est pas encore un camping. On est à un musée, donc on souhaite quand même faire ce petit pas de côté et montrer que la culture est partout. Et donc on proposera aux quelques chanceux qui pourront s'inscrire donc en juillet pour cet événement, dormir sous la tente et se réveiller le matin dans le parc du Louvre-Lens, face au musée, et prendre un petit déjeuner tous ensemble et faire des séances de bien-être après pour se remettre de cette nuit sous la tente.
Toujours dans le cadre de Parc en Fête au Louvre-Lens, le week-end des 16 et 17 août, on gardera la tête dans les étoiles avec toujours l'observation du ciel, du soleil, mais aussi des ateliers de création de cerfs-volants et un spectacle circassien de la compagnie 3 secondes. Ludovic de Mathieu.
On a voulu aussi proposer des spectacles variés, notamment un spectacle avec des circassiennes, la compagnie 3 secondes, qui proposera un spectacle autour du ciel et plus particulièrement de l'aviation. C'est un spectacle de portée, de voltige, qui est assez impressionnant, très poétique, accessible pour toute la famille, qui sera présenté dans le parc, en lien aussi avec la programmation autour du ciel. Et notamment, on a voulu mettre en place une activité cerf-volant avec un club d'astronomie. Et donc, ils viendront faire des initiations, des démonstrations de cerf-volant. C'est des clubs qui sont lors des grands événements à Berck, au Crotoy, qui ont l'habitude avec des cerfs-volants géants notamment. de faire des animations pour le public. Et donc là, ils proposeront de fabriquer son cerf-volant, de le décorer en lien avec les œuvres du musée, et puis après, bah, de s'initier pour le piloter, parce que ce n'est pas toujours évident non plus en fonction du vent, donc de donner un peu les bases pour l'utiliser pendant l'été après.
On va également pouvoir se former à la photographie dans Parc en Fête à l'occasion de la journée mondiale de la photographie. Ce sera du 20 au 24 août.
Oui, on a voulu aussi proposer une programmation autour de la photo. On a un lieu qui est très photogénique. On a un bâtiment qui est assez incroyable, une architecture magnifique, et puis un parc avec des environnements très différents. Et depuis quelques années, on organise des balades photo qui plaisent beaucoup. C'est vraiment l'idée de découvrir avec un professionnel, avec un photographe professionnel, les trois petits trucs qui permettent de faire des belles photos. Donc il y a vraiment une partie technique. Et puis après, on part en balade dans le parc et on va à la chasse aux photos avec des consignes qui sont données par le photographe. Et donc ensuite, on partage les photos les uns avec les autres, avec les publics. C'est des publics qui sont très variés. On a des adolescents, des adultes, des enfants qui y participent. Et puis les plus belles photos, on les imprime. Donc on peut repartir avec sa photo, un peu sa carte postale qu'on aura réalisée soi-même du parc, du musée, de l'architecture. Et la volonté aussi, après, c'est de valoriser ces photos pour en faire des cartes postales qu'on pourra distribuer au public.
On arrive déjà à la fin de l'été dans Ma Cabane, fin août, avec notamment une exposition de la CIMADE. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, on a souhaité aussi, donc, comme on le fait dans la programmation durant toute l'année, autour de nos expositions, notamment on l'avait fait pour l'exposition Exil, c'est travailler avec les structures du territoire. Et valoriser aussi le travail qui est fait par ces structures, par ces associations. Et donc notamment, on a un partenariat avec la CIMADE qui va organiser une exposition photo au sein du musée, qui présentera une expo qui a été réalisée avec des bénéficiaires de la CIMADE autour de l'idée de l'habitation, de la cabane, du logement, notamment quand on est exilé, quand on est expatrié, quand on quitte son domicile, qu'on quitte son habitation et puis qu'on est parfois amené à loger aussi dans des habitats de fortune. Et donc il y a des ateliers qui ont été faits avec ces personnes. Et donc le résultat de ces ateliers a donné lieu à une très belle exposition photo qui sera présentée au sein du Louvre-Lens et qui sera le fil rouge pour le week-end. Donc on aura des ateliers qui seront proposés pendant tout le week-end autour de la cabane. Donc effectivement la cabane comme habitat, mais aussi on a voulu faire un clin d'œil à la cabane de l'enfance à travers des animations. On fera de l'acrobranche, on aura des circassiens qui feront un parcours aussi autour du thème de la cabane, dans le sous-bois notamment, qui amènera le public à redécouvrir aussi différemment le musée du Louvre-Lens et sa végétation. Et puis plein d'autres surprises qui accompagneront ce week-end. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un week-end très varié, avec de la photo, des parcours d'acrobranche, des animations artistiques, pour terminer l'été en beauté.
Et il y a plein d'autres choses à découvrir lors de Parc en Fête tout l'été au Louvre-Lens. Par exemple, le week-end de Fiesta des 12 et 13 juillet, l'exposition Rayon de soleil de l'artiste brésilienne Sonia Gomes et tout un tas d'activités ludiques et artistiques. La grande majorité de ces activités sont gratuites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.louvrelens.fr. C'était un sujet de Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vicaire, curé de campagne, coadjuteur, pour vos déplacements dans les paroisses, n'utilisez que le cycle Amen. Le cycle Amen, modèle agréé par le Vatican.
Radio Campus 106,6.
Si pesant, tous les petits lieux de mon quartier, en ce jour-là, dit du Seigneur, se sont fait beaux, s'en vont prier pour se redonner du baume au cœur.
C'est dimanche.
avec la peur de sortir de chez moi. De toute façon, y'a rien à voir dehors. Bah, on dirait qu'ils sont tous morts. Et si j'ai abusé la veille, même pas la peine que je me réveille. Je resterai recroquillé sur mon lit encore habillé.
C'est le dimanche. Comme ça, je retrouve la paix. Tous les petits gars de mon quartier, hier ils couchaient sur leur scooter, se sentaient beaux sans parfumer, pour aller jouer les jolis cœurs.